Vie et aventure de Nicholas Nickleby. Chapitre 2. Monsieur Ralph Nickleby, son établissement et ses entreprises. Grande compagnie par action d'une vaste importance nationale. Monsieur Ralph Nickleby n'était pas, à proprement parler, comme qui dirait un négociant. Ce n'est pas non plus un banquier, ni un procureur, ni un avocat consultant, ni un notaire. Ce n'était certainement pas un marchand. Bien moins encore aurait-il pu prendre le titre de quelque spécialité professionnelle, car il eût été impossible de citer une profession connue à laquelle il appartint. Néanmoins, comme il habitait dans le Golden Square, une maison spacieuse, ornée d'abord d'une plaque de cuivre sur la porte de la rue, puis d'une autre, deux fois plus petite, sur le guichet à gauche, juste au-dessus d'une petite main de bronze traversée d'une brochette pour servir de manteau, et qu'on y pouvait lire en grosses lettres le mot « bureau », il était clair que M. Ralph Nickleby faisait ou prétendait faire des affaires de quelque nature. Et si l'on en voulait une preuve plus irréfutable encore, on avait, pour dissiper ses doutes, qu'à observer la scrupuleuse exactitude avec laquelle, tous les jours, de 9h30 à 5h, un homme à face blême, en habit jadis noir, la plume à l'oreille, se tenait assis sur un tabouret extrêmement dur, dans une espèce d'office, au bout du corridor, excepté quand il venait ouvrir la porte en entendant sonner dehors. Quoiqu'il y ait autour de Golden Square quelques maisons occupées par des professions graves, on ne peut pas dire précisément que ce soit sur le chemin de personne, ni que cela mène nulle part. C'est un de ces squares qui ont fini d'exister, un quartier de la ville qui a disparu du monde et qui ne se compose guère que de chambres garnies. Les premiers et les seconds étages y sont presque tous loués, meublés, à des célibataires. Et on y prend des pensionnaires pour la table. C'est un grand rendez-vous d'étrangers. Les hommes au teint basané qui portent de larges bagues aux doigts, de longues et pesantes chaînes de montres, des favoris touffus, et qui se rassemblent sous les colonnes de l'opéra ou dans la saison, autour du bureau de location, entre 4 et 5 heures de l'après-midi, au moment où l'on délivre les billets de faveur, demeurent tous à Golden Square ou dans une de ses rues adjacentes. Il y a deux ou trois violons et une flûte qui y font leur résidence. Ces pensions bourgeoises sont toutes musicales, et les notes qui s'échappent des pianos et des harpes voltigent la nuit autour de la statue lugubre, le génie du lieu, qui semble avoir sous sa garde un petit désert d'arbres nains au centre de la place. Par une nuit d'été, le passant peut voir les fenêtres toutes grandes ouvertes, garnies d'hommes à moustaches, au teint bistreux, flânant à la croisée et fumant à faire trembler. Des éclats de voix rauques qui s'exercent à vocaliser usurpent le silence du soir et les vapeurs d'un tabac exquis parfument les airs. Là, cigares et tabatières, flûtes et clarinettes, basses et violons se partagent l'empire de ce petit royaume. C'est le pays des chants et du tabac. Les orchestres ambulants se sentent là sur leur théâtre, et les chanteurs des rues, en pénétrant dans son enceinte, font vibrer des accents plus vigoureux et des cadences plus sonores. Il semble au premier abord que ce n'était pas précisément là un quartier propice aux affaires. Toutefois, depuis plusieurs années que M. Ralph Nickleby s'y était fixé, il ne s'en était jamais plaint. Il ne connaissait personne à la ronde, comme il n'était connu de personne, quoiqu'il eût la réputation d'un homme éminemment riche. Les marchands supposaient que c'était un homme de loi, et les autres voisins pensaient plutôt qu'il tenait une agence générale. Ce n'était pas de part et d'autre plus mal deviné qu'on ne fait d'ordinaire quand on s'occupe des affaires d'autrui. Monsieur Ralph Nickleby était assis un matin dans son cabinet particulier, tout prêt à sortir. Il portait un Spencer vert bouteille par-dessus un habit bleu, un gilet blanc, un pantalon gris mélangé enfoncé dans des bottes à Wellington. Le bout d'un jabot sur une chemise à petits plis, impatient de se montrer à son avantage, faisait tout ce qu'il pouvait pour se dégager de la prison où il étouffait, entre le menton du personnage et le bouton d'en haut qui fermait son Spencer. Ce par-dessus, autrefois à la mode, ne descendait pas assez par devant pour masquer une longue traîne de montres en or composée d'une série d'anneaux unis, dont le premier partait d'une montre d'or à répétition placée dans le gousset de Monsieur Nickleby et dont le dernier était orné de deux petites clés, l'une appartenant à la montre même et l'autre à quelques cadenas de sûreté. Il avait sur la tête une légère pointe de poudre destinée sans doute à lui donner un air bienveillant. Mais si tel était le but, il aurait peut-être mieux fait, pendant qu'il y était, de poudrer aussi sa figure. Car il y avait dans ses rides mêmes et dans son œil glacé, qui n'était jamais en repos, quelque chose qui trahissait un esprit rusé, en dépit de ses efforts pour le dissimuler. Bref, quoi qu'il en soit, Monsieur Ralph était donc là dans son cabinet, tout seul, et par conséquent, ni sa poudre, ni ses rides, ni ses yeux ne produisaient le moindre effet, ni bon ni mauvais, sur personne. Et non, jusqu'à présent, rien à faire avec nous. Monsieur Nickleby ferma un livre de comptes qui était ouvert devant lui sur son bureau. Puis, se rejetant en arrière dans son fauteuil, il porta d'un air distrait les yeux à travers les vitres poudreuses de sa fenêtre. Il y a à Londres des maisons qui ont, sur le derrière, un petit bout de terrain bien triste, ordinairement flanqué de quatre grands murs badigeonnés et couronnés d'un rang de cheminées qui n'ajoutent pas à l'agrément du paysage. Là, au fond de ce petit puits, s'étiole tout le long de l'année un arbre rabougri qui se donne les airs de vouloir pousser quelques feuilles en automne, à l'époque où elles tombent chez les autres. Puis, s'occupant sous l'effort, tout crevassé, tout enfumé, il retombe encore une fois dans sa langueur jusqu'à l'été suivant, où il donne une nouvelle représentation avec le même succès. Pourtant, si la température devient par hasard tout à fait favorable, il n'est pas sans exemple que ses branches aient attiré par leur séduction quelques pierrots mélancoliques. Il y a des gens qui donnent à ces cours sombres le nom de jardin. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Personne ne peut supposer qu'ils aient jamais été plantés. Il est bien plus vraisemblable que c'était dans l'origine quelques tas de déblais restés sans maître, embellis par la végétation qui peut naître dans des plâtras. Quelques paniers sans fond, quelques débris de bouteilles cassées qu'on y jette à l'occasion, quand quelques locataires emménagent, y restent fidèlement jusqu'à son déménagement. La paille humide qu'on y dépose met à moisir tout le temps qu'il lui plaît, sans que personne ne la dérange, et se mêle agréablement aux buis rares des bordures, aux arbres verts qui sont jaunes, aux pots à fleurs ébréchés qui sont renversés là, tristement, en proie aux limaces, sous les gouttières. Tel était le jardin que M. Ralph Nickleby contemplait à travers la fenêtre, assis dans son fauteuil, et les mains dans ses goussets. Il avait les yeux fixés sur un sapin tordu, planté par quelques anciens locataires dans un baquet, jadis peint en vert, mais qu'on avait laissé par insouciance depuis bien des années déjà, pourrir petit à petit, tout à son aise. Ce n'était pas précisément un coup d'œil divertissant, mais M. Nickleby était enseveli dans une méditation profonde, et semblait prêter à ce tableau peu séduisant une attention qu'il n'aurait certainement pas voulu prêter sciemment à l'examen de la plante exotique la plus rare. À la fin, ses yeux s'égarèrent à gauche, sur une autre petite croisée non moins sale, à travers laquelle on voyait confusément la figure du commis, dont il rencontra les regards. Il lui fit signe de venir. Docile à cette invitation, le clerc laissa là sa haute escabelle, polie comme un miroir par un long commerce avec sa culotte, et se présenta dans le cabinet de M. Nickleby. C'était un homme grand, entre deux âges, avec des yeux à fleur de tête dont l'un paraissait immobile, le nez rubicon, la face cadavéreuse, un accoutrement mal assorti de vêtements qui montrait la corde, beaucoup trop petit pour sa taille, et où l'on avait ménagé les boutons avec une telle économie qu'il lui fallait bien de l'habileté pour réussir à les faire tenir sur lui. « N'est-il pas midi et demi, Nodge ?» dit Monsieur Nickleby d'une voix aigre et rude. « Il n'est encore que 25 minutes au... » Nodge allait dire au cabaret, mais il se ravisa prudemment. « À Saint-Paul » continua-t-il. « Ma montre s'est donc arrêtée, » dit Monsieur Nickleby. « Je ne sais comment cela se fait. »«
Pas montée, » dit Nodge.
« Si, » dit Monsieur Nickleby.
« Alors démontée, » reprit Nodge.
« J'espère que non, »
répliqua Monsieur Nickleby.
« Il faut bien, » dit Nodge.
« C'est bon, » dit Monsieur Nickleby en remettant dans sa poche la montre à répétition.
« Peut-être bien. »
Nodge poussa un petit grognement à son usage, par lequel il terminait toute discussion avec son maître pour faire entendre que c'était lui qui triomphait et, comme il parlait rarement si ce n'est pour répondre, il retomba dans son silence bourru et se frotta lentement les mains l'une contre l'autre, non sans faire craquer successivement ses doigts dans leurs jointures et les serrer de manière à leur imprimer toutes sortes de contorsions. Cette habitude routinière à laquelle il satisfaisait à tout propos et le regard fixe qu'il avait soin de communiquer à son bon œil pour le mettre d'accord avec le mauvais, de manière à dépister le curieux qui aurait voulu savoir de quel œil il regardait, étaient deux singularités de Monsieur Nodge qui n'en manquaient pas et frappaient tout d'abord l'observateur qui le voyait pour la première fois.
« Je vais ce matin à la taverne de Londres, » dit Monsieur Nickleby.
« Séance publique ?» demanda Nodge.
Monsieur Nickleby fit un signe de tête d'assentiment.
« J'attends une lettre de l'avoué pour cette hypothèque de Ruddle. Si elle venait, ce serait toujours par la distribution de 2 heures. C'est le moment où je sortirai de la cité pour aller à Charing Cross. Je prendrai le trottoir de gauche. S'il y a quelques lettres, venez à ma rencontre, vous me l'apporterez. »
Nodge lui rendit son signe de tête, et il n'avait pas fini qu'on sonna à la porte du bureau. Le patron leva les yeux de dessus ses papiers, et le clerc resta sans bouger.
« La sonnette !» dit Nodge en attendant une explication. « Vous y êtes ?»«
Oui. »«
Pour tout le monde ?»«
Oui. »«
Pour le percepteur ?»«
Non, il reviendra. »
Encore le petit grognement habituel. Ce qui voulait dire « je le savais bien ». Et le bruit de la sonnette ayant recommencé, Nodge ouvrit la porte et ramène en annonçant M. Bonny, un gentleman pâle et haletant, les cheveux dressés sur la tête, dans un grand désordre, avec une cravate blanche d'un pouce de large, nouée négligemment autour du cou. À le voir, on eût dit qu'il avait passé une mauvaise nuit sans se déshabiller. « Mon cher Nickleby !» dit le monsieur prenant à la main son chapeau blanc, si plein de papier qu'il n'y avait plus de place pour le faire tenir sur sa tête. « Nous n'avons pas un moment à perdre. J'ai un cab à la porte. Monsieur Matthew Pupker préside. Et nous avons positivement 3 membres du Parlement qui doivent venir. Je viens d'en voir 2 se lever en bon état. Le 3e, qui a passé toute la nuit à Crockford, n'a pris que le temps de retourner chez lui. » pour mettre une chemise blanche et prendre une bouteille ou 2 de soda water. Et il ne manquera pas de venir nous retrouver à temps pour l'adresse proposée à la réunion. Il a encore un peu d'excitation de la nuit dernière, mais n'importe, il n'en parlera jamais moins haut pour cela.
« Voilà qui a l'air de marcher assez bien, » dit Monsieur Nickleby, dont les manières réfléchies faisaient un contraste parfait avec la vivacité de son collègue en affaires.
« Assez bien ?» répéta Monsieur Bonny. « C'est la plus belle idée qu'on ait jamais conçue. Compagnie de l'Union métropolitaine pour le perfectionnement des petits pains chauds et tartelettes rendus exactement à domicile. Capital 75 millions divisé en 500 000 actions de 250 francs. Ma foi, le titre seul vaudra aux actions une prime avant 10 jours.
Et alors ? Quand les actions seront en prime, dit M. Ralph Nickleby avec un sourire.
Alors vous savez mieux que personne l'usage qu'il en faut faire et comment on se retire à propos,
dit M. Bouny en lui donnant familièrement une petite tape sur l'épaule.
Mais à propos, vous avez là un clerc bien remarquable.
Oui, le pauvre diable, répondit Ralph en mettant ses gants. Et cependant, Monsieur Newman Nudge a eu dans son temps des chevaux et une meute.
Ah, vraiment ?
Dit l'autre négligemment. Mais oui, continua Ralph. Et il n'y a pas encore de cela bien des années. Mais c'est un homme qui jetait son argent par les fenêtres. Il le plaçait n'importe comment et il empruntait à intérêt. Bref, il a commencé par des folies, il a fini par la misère. Alors il s'est mis à boire, il a eu une attaque de paralysie et puis il est venu pour me demander de lui prêter 25 francs sous prétexte que, dans le temps de sa fortune, j'avais...
Fais affaire avec lui, dit M. Bouny d'un air moqueur.
Justement, répliqua Ralph, je ne lui ai pas prêté, vous comprenez.
Oh, comme de raison!
Mais comme il me fallait justement un employé pour ouvrir la porte, etc., je l'ai recueilli par charité et il est resté depuis ce temps-là avec moi. Je le crois un peu timbré, dit M. Nickleby en prenant un air de compassion. Mais il me rend des services, le pauvre homme. Il me rend des services. Le charitable gentleman ne jugea pas à propos d'ajouter que Newman Nudge, étant tout à fait sans ressources, le servait à moitié prix de ce qu'on donne à un petit clerc de 13 ans. Il oublia également, dans cet exposé rapide, que la taciturnité excentrique de Nudge le lui rendait particulièrement précieux dans un emploi où il y avait à faire bien des petites choses dont il n'était pas désirable qu'on fût informé au dehors. L'autre monsieur était, d'ailleurs, pressé de s'en aller, et comme ils terminèrent cet entretien à la hâte pour se jeter dans le cabriolet de louanges qui les attendait, c'est sans doute pour cela que M. Nickleby n'eut pas le temps de spécifier des circonstances d'ailleurs si peu intéressantes. Quel fracas ils trouvèrent à leur arrivée dans la rue de Bishopgate Within. Ils descendirent au travers d'une demi-douzaine d'hommes à fiche qui couraient débordés par un vent affreux pour tourner aux passants les avis gigantesques sous les poids desquels ils étaient courbés, annonçant au public qu'à une heure précise, il se tiendrait une réunion pour rendre en considération la nécessité d'adresser au Parlement une pétition en faveur de la Compagnie de l'Union métropolitaine pour le perfectionnement des petits pains chauds et tartelettes rendus exactement à domicile. Capital 75 millions divisé en 500 000 actions de 250 francs. Toutes ces sommes rebondissaient en chiffres monstres d'un noir luisant. Monsieur Bouny joua du coude hardiment au travers de la foule et monta l'escalier en recevant le long du chemin une foule de révérences respectueuses des huissiers qui se tenaient sur les paliers pour introduire le monde. Et suivi de Monsieur Nickleby, il plongea dans une enfilade de chambres derrière la grande salle où se tenait le public. Il entra dans un cabinet où se tenaient autour d'une table des hommes d'affaires, à ce qu'il semblait.
« Silence !» s'écria un monsieur à double menton en voyant M. Bouny se présenter en personne. « Un fauteuil, messieurs, un fauteuil !»
Les nouveaux venus furent accueillis par un sentiment de bienveillance universelle. Et M. Bouny s'empressa d'aller prendre le haut bout de table, ôta son chapeau, passa ses doigts dans ses cheveux, prit un petit marteau dont il donna sur la table un coup à tout rompre, sur quoi plusieurs messieurs crièrent « Silence !» et se firent mutuellement d'aimables signes de tête qui voulaient dire « Hein, quel gaillard !» Au même instant, un huissier dans une agitation fiévreuse se précipita dans la chambre et, ouvrant la porte avec fracas, cria à tue-tête « Monsieur Matthew Pupker !» Le comité se leva et battit des mains pour exprimer sa joie. Puis, pendant qu'il battait des mains, entra M. Matthew Pupker, escorté de deux membres à vie du Parlement, l'un d'Irlande et l'autre d'Écosse. Tous souriants, saluant, ayant un air si aimable qu'on se demandait avec étonnement comment on pouvait avoir le cœur de voter contre des personnages si avenants. Sir Matthew Pupker, surtout, qui avait une petite tête ronde surmontée d'un joli toupet de filasse, tomba dans un paroxysme de salutations si empressées qu'à chaque instant le toupet menaçait de faire un plongeon. Quand ses symptômes se furent un peu calmés, ceux de ces messieurs qui étaient en position de converser avec Sir Matthew Pupker ou les deux autres membres du Parlement formèrent autour d'eux trois petits groupes, près desquels les autres moins heureux se tenaient languissamment, le sourire sur les lèvres et se frottant les mains par contenance, dans l'espérance de quelques circonstances inespérées qui les mettaient à même de se faire mieux connaître. Pendant tout ce temps, Sir Matthew Pupker et les deux autres membres racontaient à leurs cercles respectifs quelles étaient les intentions du gouvernement sur la présentation du bill. Il leur communiquait en détail tout ce que le gouvernement leur avait dit à l'oreille la dernière fois qu'ils avaient dîné chez lui. Sans oublier le coup d'œil mystérieux dont le gouvernement avait accompagné cette confidence. D'où qu'il s'était fondé à conclure que, si le gouvernement avait quelque chose à cœur, il n'avait rien de plus à cœur que le succès et la prospérité de la Compagnie d'Union Métropolitaine pour le perfectionnement des petits pains chauds et tartelettes rendus avec exactitude à domicile. En attendant, pendant qu'on réglait le programme de la séance et que l'on arrangeait à la satisfaction de tous les orateurs l'ordre des discours qu'ils allaient faire, le public de la grande salle promenait ses regards de l'estrade encore vide à la galerie musicale pleine de dames. Il n'y avait guère plus d'un couple d'heures que la plus grande partie de l'auditoire prenait plaisir à cet amusement. Mais on se blase de tout, et la satiété suit la jouissance des divertissements les plus agréables. Lorsque les esprits chagrins commencèrent à marquer la mesure sur le parquet avec leurs talons de bottes et à exprimer leur mécontentement par une grande variété de cris et de clameurs. Les exercices vocaux se remarquaient naturellement de préférence chez eux, qui avaient attendu plus longtemps, c'est-à-dire chez les premiers venus, et par conséquent les plus voisins de l'estrade et les plus reculés des policemen de service, qui, ne se souciant pas de faire le coup de poing pour percer la foule, mais se sentant obligés en conscience de faire quelques démonstrations pour apaiser le tumulte, se mirent immédiatement en devoir de tirer à eux, comme ils purent, l'un par le collet, l'autre par les pans de son habit, les innocents qui se trouvaient près de la porte. Bien entendu qu'ils entremêlaient cet intermède de coups de trique étourdissants, selon les préceptes de leur art, à l'instar de cet ingénieux modèle, M. Polichinelle, dont cette branche de pouvoir exécutif limite à ravir dans l'occasion l'habile maniement des armes. Il se livrait déjà sur plusieurs points des escarmouches assez vives. Lorsqu'un tumulte attira l'attention, même des parties belligérantes, et alors se répandit sur l'estrade, par une porte latérale, un long flot de gentlemen de chapeau à la main, tous regardant derrière eux en poussant des cris joyeux, dont la cause s'expliqua d'elle-même quand on vit Sir Matthew Pupker et les deux autres membres du Parlement apparaître sur le devant du théâtre, au milieu d'applaudissements assourdissants et exprimant par leurs gestes muets et leurs attitudes admiratives qu'en vérité, ils n'avaient jamais joui d'un si beau coup d'œil dans tous les cours de leur carrière publique. Enfin, l'assemblée cessa le vacarme, mais pour recommencer de plus belle pendant 5 minutes, quand un vote unanime eut appelé Sir Matthew Pupker au fauteuil de la présidence. Alors, Sir Matthew Pupker se mit à dire combien il se sentait ému dans cette circonstance solennelle, et l'effet que cette circonstance solennelle ne pouvait manquer d'avoir aux yeux du monde. Il parla de la profonde intelligence de ses compatriotes qui siégeaient devant lui, de la fortune et de la considération de ses honorables amis qui siégeaient derrière lui,
et finalement de l'influence qu'aurait sur le bien-être, le bonheur, le confort, la liberté, que dis-je, l'existence d'une nation grande et libre, une institution aussi importante que celle de la Compagnie de l'Union métropolitaine pour le perfectionnement des petits pains chauds et tartelettes, rendus avec exactitude à domicile. Monsieur Bouny se présenta ensuite pour proposer la première motion, et passant sa main droite dans ses cheveux, pendant qu'il tenait la gauche plantée d'une manière élégante sur ses côtes, il confia son chapeau aux soins du gentleman à deux mentons, qui faisait généralement l'office de porte-manteau pour les orateurs, et annonça qu'il allait lire sa première proposition, dont voici les termes. L'Assemblée voit avec un sentiment d'alarme et de juste appréhension l'état actuel du commerce des petits pains dans cette métropole et leurs lieux circonvoisins. Elle considère le corps des distributeurs de petits pains tel qu'il est à présent constitué comme complètement indigne de la confiance du public. Son opinion est que le système des petits pains dans son ensemble est également préjudiciable à la santé comme à la moralité du peuple, et, de plus, entièrement subversif des intérêts, bien entendu, d'une grande société commerciale et industrielle. L'honorable gentleman fit un discours qui émut les dames jusqu'aux larmes et pénétra des plus vives émotions tous les individus présents. Il avait visité les maisons des pauvres dans les divers districts de Londres. Il n'y avait pas trouvé la moindre trace de petits pains et n'avait que trop lieu de croire qu'il y avait quelques indigents qui n'en goûtaient pas une fois tout le long de l'année. Il avait découvert qu'il existait parmi les vendeurs de petits pains une ivrognerie, une débauche, un désordre de mœurs qui s'expliquait aisément par la nature humiliante de leur négoce tel qu'était maintenant exercé. Il avait trouvé les mêmes vices dans les classes pauvres qu'on devrait compter parmi les consommateurs de petits pains, et il attribuait ce résultat au désespoir ou l'impossibilité d'atteindre à cet article de subsistance jeté ces malheureux. Désespoir funeste qui leur faisait chercher un stimulant factice dans des liqueurs enivrantes. Il se faisait fort d'articuler, devant un comité de la Chambre des communes, la preuve qu'il existait une conspiration pour maintenir à un taux élevé le prix des petits pains et créer un monopole aux distributeurs à sonnette, qu'il ferait parler, si l'on voudrait, des distributeurs à sonnette à la barre de la Chambre, et qu'il prouverait en outre que ces gens-là correspondaient entre eux par des mots et des signes cabalistiques comme Snook, Walker, Ferguson, Murphy va-t-il bien, et bien d'autres. Voilà l'état des choses douloureux auquel la compagnie se proposait de porter remède. En interdisant sous les peines sévères tout commerce particulier de petits pains, quel qu'il fût. Deuxièmement, en fournissant elle-même au public en général et aux pauvres à domicile des petits pains de première qualité à prix réduit. C'était là l'objet d'un bill présenté au Parlement par l'excellent patriote Sir Matthew Pupker, leur président. C'est ce bill que la Réunion avait pour but de soutenir. C'était ceux qui soutiendraient ce bill qui jetteraient un éclat et une splendeur impérissables sur l'Angleterre, sous le nom de Compagnie de l'Union métropolitaine pour le perfectionnement des petits pains chauds et tartelettes distribués avec exactitude. Il devait ajouter que la société se constituait au capital de 75 millions, divisé en 500 000 actions de 250 francs. Monsieur Ralph Nickleby appuya la motion, et un autre gentleman, ayant proposé un amendement consistant dans l'insertion des mots « et tartelettes » après les mots « et petits pains », toutes les fois qu'ils se rencontreraient dans la motion, fut enlevé victorieusement. Il n'y eut en tout qu'un homme dans la foule qui cria « Non !» On en fit prompte justice en l'arrêtant et le mettant sur le champ à la porte. La seconde motion, qui avait pour but de proclamer la nécessité d'abolir immédiatement tout vendeur de petits pains ou tartelettes, tout commerçant en petits pains ou tartelettes, quels qu'ils fussent, mâles ou femelles, hommes ou enfants, à sonnette ou sans sonnette, fut proposé par un gentleman à l'air grave, au maintien demi-clérical, qui monta tout de suite sur un ton si pathétique qu'il fit oublier le premier orateur en moins de rien. Vous auriez entendu tomber une épingle. Une épingle, dit une plume, tant qu'il décrivait avec art les cruautés infligées par leur patron à ses distributeurs de petits pains. Et il observait sagement qu'il ne fallait pas d'autres motifs pour justifier l'établissement de cette inestimable compagnie. Il paraît, d'après ce qu'il racontait, que l'on envoyait dehors ces infortunés garçons, le soir, dans les rues humides, dans la saison la plus dure de l'année, pour circuler dans l'obscurité et par des temps de pluie, de grêle ou de neige, pendant des heures entières, sans abri, sans nourriture, sans être en rien protégé contre le froid. Et remarquez bien, ce point-ci, messieurs, on avait bien soin d'envelopper chaudement les petits pains dans de bonnes couvertures, mais les garçons qui les vendaient, on ne s'en occupait seulement pas. On les abandonnait à leurs propres ressources. C'est affreux. L'honorable gentleman cita l'exemple d'un vendeur de petits pains qui, pour avoir été exposé à ce système odieux et barbare pendant 5 ans consécutifs, finit par être victime d'un rhume de cerveau qui ruina son tempérament par degrés jusqu'à ce qu'enfin une transpiration heureuse lui rendît la santé. Cet exemple était à sa connaissance. Il pouvait l'attester en personne. Mais en voici une autre qui tenait, par oui dire, d'une personne dont il n'avait aucune raison de suspecter la bonne foi. Celui-là était bien plus attendrissant et bien plus effrayant encore. Il avait entendu parler d'un garçon orphelin, vendeur de petits pains, qui, ayant été renversé par un fiacre, avait été emporté à l'hôpital. Là, il avait subi l'amputation d'une jambe au-dessus du genou. Et aujourd'hui même, continuer son commerce avec des béquilles. Dieu de justice! Était-il permis de laisser subsister de pareilles horreurs? La division adoptée pour les délibérations du comité et l'éloquence déployée par les orateurs eurent plein succès. Elles entraînèrent toutes les sympathies. Les hommes poussaient des acclamations. Les dames trempaient de larmes leurs mouchoirs de poche, qu'elles agitaient ensuite jusqu'à ce que leurs pleurs furent séchés. L'enthousiasme fut épouvantable, et M. Nickleby murmura tout bas à l'oreille de son ami qu'à partir de ce moment, les actions étaient assurées d'une prime de 25%. La résolution fut donc emportée avec des applaudissements répétés. Il n'y avait pas un auditeur qui ne levât les deux mains en sa faveur. Et si, dans son enthousiasme, il ne levait pas aussi les deux jambes, c'est que ce n'était pas une évolution si facile. Cela fait, on lut in extenso le projet de pétition proposé. Et la pétition, comme toutes les pétitions, disait que les pétitionnaires étaient très humbles, les pétitionnés très honorables, et que l'objet en était très vertueux. Par conséquent, disait toujours la pétition, il n'y avait plus qu'à convertir tout de suite le bill en une loi pour l'honneur et la gloire éternelle de cette honorable chambre des communes assemblée en parlement. Alors le gentleman, qui avait passé toute la nuit précédente à Crockford et dont les yeux battus n'annonçaient que trop qu'il s'en ressentait encore, s'avança pour dire à ses concitoyens le discours qu'il avait l'intention de faire en faveur de la pétition, toutes les fois qu'elle serait présentée et tous les sarcasmes dont il comptait poursuivre le Parlement s'il rejetait le bill. Il confia même le regret que ses honorables amis n'y eussent pas inséré une clause pour rendre l'achat des petits pains et tartelettes de la compagnie obligatoire dans toutes les classes de la société. Quant à lui, il ne connaissait pas les demi-mesures et qu'il ne s'arrêtait jamais en chemin. Il leur promettait bien d'en faire la proposition, par division, dans le comité. Après avoir annoncé cette détermination, le gentleman devint d'une gaieté folâtre. Et comme rien n'aide tant au succès qu'une plaisanterie, que des bottes brevetées, des gants de chevreau jaune citron et un col de fourrure à son habit, il y eut des rires immenses, un enjouement général, et les dames de leur côté tirent un si brillant étalage de leur mouchoir unanime qu'elles mirent tout à fait à l'ombre le gentleman à l'air grave qui les avait tant émus tout à l'heure. Puis, Après la lecture de la pétition, au moment où on allait passer à l'adoption, se présenta le membre irlandais, jeune gentleman d'un tempérament fougueux. Il fit un de ces discours que les membres irlandais seuls sont capables de faire, où respirent partout l'âme et le souffle divin de la poésie, animés par une déclamation si brûlante qu'on s'échauffait rien qu'à le voir. Il disait, entre autres choses, qu'il demandait l'extension de ce magnifique bienfait à son pays natal, qu'il réclamait, pour elle et son égalité devant la loi des petits pains, comme devant toutes les autres lois anglaises, qu'il ne désespérait pas de voir le jour où la tartelette serait aussi savourée dans les humbles cabanes de la Verte Erin, et où la sonnette des petits pins éveillerait les échos de sa riche vallée. Puis après lui vint le membre écossais, dont une infinité d'allusions plaisantes aux chiffres probables des profits à faire augmenta la bonne humeur provoquée par la poésie de l'autre. Enfin, le succès fut complet, et tous les discours réunis laissèrent les auditeurs bien convaincus qu'il n'y avait pas de spéculation qui eût autant d'avenir, ni qui pût faire plus d'honneur que la Compagnie de l'Union métropolitaine pour le perfectionnement des petits pains chauds et tartelettes rendus exactement à domicile. Aussi, la pétition en faveur du bill fut adoptée et l'Assemblée se sépara au bruit des acclamations générales. Alors, M. Nickleby et les autres directeurs passèrent à l'office pour faire collation, comme ils n'y manquaient jamais à 1h30. Exactitude que la compagnie, encore au bureau, ne pouvait reconnaître aussi libéralement qu'elle aurait voulu. Elle ne leur accordait, pour leur peine, sur les fonds généraux, qu'une allocation de 75 francs chacun à titre de jeton de présence.